Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans le livre du prophète Agée. Vous le connaissez celui-là? Ouais, il existe depuis longtemps, hein, ce livre. Hein. Agée, chapitre 1er. Alors, il n'y a pas beaucoup de chapitres dans ce livre d'Agée, puisqu'il n'y en a que deux. Mais ça arrive à un moment très intéressant de l'histoire d'Israël. Et merci Seigneur, parce qu'au début de notre temps de louange, il y a eu différentes louanges adressées à Dieu, et même au début, dans le temps de prière. Et puis il y a quelque chose qui est revenu dans ces louanges, et c'est le thème de la prédication. Donc ça tombe bien finalement, ça tombe bien, on sent là que Dieu peut nous encourager encore aujourd'hui et nous bénir. Voyez le titre, « Souhaitez-vous vivre un réveil ?» Ouais. « En avez-vous déjà vécu un ?» Il faut être âgé pour en avoir vécu un. Ouais. Dans les années 30, 40, 50, 60, 70 même, ça soufflait bien encore dans les églises évangéliques et dans les églises pentecôtistes en France. Mais sans doute, n'en avez-vous jamais vécu une dimension, la dimension d'un réveil où il se passe des choses incroyables sans qu'on n'y fasse rien. Sans qu'on n'y fasse rien. Mais ceci n'arrive pas par hasard, bien évidemment. Il y a un principe qui est celui que Dieu attend de chacun de nous, la fidélité, l'attachement et puis l'engagement, bien évidemment, à chercher auprès de Dieu sa grâce et sa bénédiction. Et Dieu, évidemment, en réponse à nos vœux, à nos requêtes, répond en son temps. Et nous voulons vivre des temps comme cela. Nous voulons en profiter. Alors, je lis avec vous, Agée, au chapitre 1er, du verset 1er au verset 8. Vous n'avez pas tout à l'écran, donc si vous avez votre Bible, c'est tant mieux pour lire le texte en entier. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. » Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 12. Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. « Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Et fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Amen. C'est encourageant quand même, hein, ce texte-là. Alors, vivre un réveil, c'est ce qui s'est passé du temps du prophète Agé. Vous avez remarqué que les exilés, parce que Agé arrive à une période un petit peu particulière, les exilés sont de retour chez eux. Il y a un roi, on trouve cela dans le livre d'Esdras et Néhémie, il y a un roi qui soudainement a eu l'idée de renvoyer le peuple d'Israël chez lui. Et de vous à moi, c'était complètement impossible, complètement improbable, mais ça a été soudain. Je lis pour vous dans le livre d'Esdras, vous comprendrez comment les choses se sont faites. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. C'est extraordinaire. Qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda, n'est bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. On ne pouvait pas imaginer mieux. On ne pouvait pas imaginer un tel épilogue, une telle conclusion à une histoire qui, quelques dizaines d'années auparavant, s'était très mal passée. Le temple de Jérusalem a été rasé. Il nous est dit que le peuple d'Israël a été déporté en plusieurs vagues et que finalement, on a détruit l'identité d'Israël. On l'a détruite, cette identité. Et puis, on s'en est allé à Babylone. Et puis ensuite, les rois se sont succédés. Et arrive ce roi, complètement païen, mais alors à milieu des désirs, des souhaits d'un de ces nombreux peuples qu'ils ont soumis, parce qu'il n'y a pas que le peuple d'Israël qui a été soumis à cet empire, mais bien d'autres l'étaient. Et voilà qu'un matin, ou un soir en tous les cas, à un moment donné, l'esprit, le cœur de cet homme se réveille, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe en lui est spectaculaire, hein, c'est prodigieux. Même, comme je vous l'ai dit, dans les rêves les plus fous, ils auraient eu du mal à l'imaginer, ces gens d'Israël. Et bien voilà ce qui s'est passé. Dieu dit à cet homme, tu renvoies ce peuple chez lui, je veux qu'il me rebâtisse le temple. Mais c'est prodigieux quand on y pense. Un moment, c'est un miracle incroyable. Et ce miracle, c'est le début d'un réveil, bien évidemment. Et ils rentrent chez eux et ils vont participer, ces exilés, ils vont participer finalement à la résurrection de tout un peuple. Hein. Ils vont y participer. Avec leurs faibles moyens, ils vont y participer. À noter que, et c'est ce que j'ai mis en résumé de ce que l'on trouve dans cette histoire-là, c'est pour ainsi dire un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour ce peuple. Ils étaient arrivés dans une voie sans issue, au fond de toute espérance, dans la nuit la plus totale, ils vivaient. Et voilà que Dieu leur donne un nouveau départ. Vous vous rendez compte que dans les psaumes, c'est écrit, il nous est dit que tous ceux qui étaient en exil avaient arrêté de chanter, avaient suspendu leurs instruments de musique au sol de la contrée, Et ils se disaient chacun l'un l'autre, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. » Mais ils étaient sans espoir. Ils essayaient tant bien que mal d'espérer, de croire. Et voilà que la chose arrive. Eh bien, quand je pense à un réveil, je pense à un nouveau départ. Quand je pense à un réveil, je pense à une renaissance, littéralement. Je pense à un renouveau, je pense finalement à un retour, à une résurrection. C'est le retour de grandes choses, c'est le retour de belles choses. On pourrait presque dire que ça fait exactement le même effet que le printemps. Le printemps, nous, on est bien placés ici parce qu'on est à la montagne. Et ça se voit un petit peu moins quand on descend la vallée de la Durance parce que le climat est certainement moins froid. Mais ça m'a toujours étonné, et j'en suis pas lassé d'ailleurs. Quand arrive le printemps ici, mais ça se voit d'une semaine à l'autre. C'est incroyable quand même, hein ? D'une semaine à l'autre, vous partez une semaine, vous revenez, l'arbre a toutes ses feuilles vertes fluo. La semaine d'avant, il n'y en avait quasiment pas, c'était tout en fleurs. Vous dites, mais c'est incroyable, la vitesse à laquelle ça va. Il faut dire qu'on a pris un peu de retard hein, par rapport à plus bas, où ça fleurit beaucoup plus tôt dans la saison. Et puis, finalement, ça vient tellement rapidement qu'on ne voit pas le changement. Mais j'aime à me dire que le printemps, c'est explosif, finalement. Ça doit exploser dans tous les sens, les couleurs, les parfums, etc. Il doit y avoir une remontée de la vie, mais d'une façon extraordinaire quand même, non ? C'est pas comme ça que vous vivez le printemps ? C'est quand même assez incroyable. Eh bien, c'est le dictionnaire qui nous donne comme définition, quand on cherche à renouveau, qui nous donne l'idée du printemps. C'est le dictionnaire qui le dit même. Cette renaissance où la vie reprend sur un endormissement parce qu'on a dormi pendant l'hiver, parce que les arbres se sont mis un petit peu en veille, parce que la nature s'est préservée, donc elle a gardé ses forces. Mais au printemps, il faut que ça sorte. Le réveil, c'est ça. On a passé l'hiver, on a bien dormi pendant l'hiver. Hein. Il serait temps de se réveiller. C'est le printemps. Il serait temps de se réveiller, la vie doit apparaître à ce moment-là. Et c'est ainsi que l'on voit l'image, finalement, d'un réveil dans le livre d'Agé. C'est la vie qui revient, finalement, là où tout était mort. Alors on s'est mis à la tâche et on a commencé à rebâtir le temple de Jérusalem. Esdras, puis ensuite Néhémie, pour fortifier la muraille. Il faut quand même vous dire que le temple a été rebâti, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est certainement pour ça que Agé dira « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première, dans sa gloire première ? Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle comme rien à vos yeux ?» Parce qu'il faut vous dire quand même qu'on a commencé, on est revenu, on était gonflé à bloc. Parce que c'est même un roi païen qui nous a envoyé accomplir cette mission. Donc on se dit, si même nos ennemis nous sont favorables, ça va bien se passer. Sauf que, eh bien, au bout de quelques temps, on leur a mis des bâtons dans les roues quand même. Hein. Ne croyez pas que ça se fait si facilement. Hein. Ne croyez pas que se réveiller, c'est très facile. Hein. S'il suffisait d'un réveil pour nous réveiller, ce serait facile. Hein. Mais il y en a qui ont la fâcheuse habitude d'éteindre le réveil dès qu'il sonne. Hein. Et c'est une lutte. Hein. Entre le réveil et celui qu'il faut réveiller. Hein. Quand le réveil finit pas par terre. Hein. Ah, il y en a qui n'ont pas du tout envie de se réveiller. Hein. Alors le réveil répète sa sonnerie. Et à qui gagnera ? Maintenant, quand il faut se lever, il faut se lever. Mais ce n'est pas simple. Ça n'a pas été simple à réveiller non pas le peuple, mais réveiller l'espoir en bâtissant les murs du temple, parce qu'au bout d'un moment, on leur a mis tellement de bâtons dans les roues qu'ils se sont tous découragés. Et vous savez quoi ? Pendant 15 ans, l'œuvre est restée inachevée. 15 ans ! Mince alors ! C'est pire que la Belle au bois dormant. Hein. 15 ans ! On dort pendant 15 ans. Je ne sais pas, quelqu'un a fait le calcul. C'est surprenant, il ne faut peut-être pas avoir autre chose à faire, mais certains ont calculé combien de temps on passait notre vie à dormir. Sur 80 ans, eh ben, ça vous fait peur quand même. Hein, parce que vous en passez des années à dormir. Hein. Alors évidemment, c'est fractionné, heureusement. Hein, mais là, pendant 15 ans, on a dormi. Hein. On a dormi, on a pleuré. On a dit, on avait bien commencé, pourquoi ça s'est arrêté ? Quand le printemps vient, il peut y avoir des coups de gel. Hein. Ça fait pas du bien à la nature. Hein. Ben, un coup de gel, ça nous fait pas du bien, mais gloire à Dieu, ce matin, c'est le dégel. Parce que quand on dit nouveau départ, renouveau, je pense que, comme moi, vous pensez à un rafraîchissement. Un rafraîchissement. C'est l'apôtre Pierre qui disait cela, et nous y viendrons dans un deuxième point. Un rafraîchissement, c'est comme un vent de fraîcheur. C'est comme un vent de fraîcheur qui passe. Si vous avez déménagé quelquefois, sans doute avez-vous déjà emménagé quelque part où il fallait faire un petit rafraîchissement. Non ? Vous savez ce que ça veut dire ? On refait les peintures, on met un coup de blanc, on essaye de rendre propre ce qui s'est usé avec le temps. En fait, on se remémore, on peut se remémorer que ça devait être beau à un moment donné dans sa propre maison. On peut le faire régulièrement, histoire de rafraîchir quand même. Alors on se souvient que c'était plus beau avant, mais on s'habitue aux choses ternes, vous savez. Ceux qui vivaient dans le réveil se sont habitués au réveil. Je me souviens du témoignage de ce frère qui a été un évangéliste qui a béni la France, vraiment béni la France, durant des dizaines d'années. Et cet homme, avec d'autres, ce pasteur, avec d'autres, me racontait que quand il faisait des campagnes d'évangélisation, des missions d'évangélisation, souvent c'était 15 jours, 3 semaines au même endroit, soit dans une salle de mairie, soit on installait une tente sur une place publique, et ils annonçaient l'évangile après-midi et soir, 7 jours sur 7. Et vous savez quoi ? Tous les jours, il y avait des miracles. Tous les jours, il y avait des conversions. Et d'un jour à l'autre, il demandait à ceux de la veille de raconter ce qui s'était passé. Alors à qui était aveugle, à qui avait un cancer, à qui était blessé de différentes façons. Tous les jours, il y avait des témoignages aussi puissants que cela. Et quand ils rentraient chez eux très tard le soir, ils pensaient qu'à une chose, à se coucher. Le lendemain matin, ils émergeaient et puis ils se tenaient devant Dieu et ils priaient et ils demandaient à Dieu grâce pour la journée qui allait venir. Et j'ai été surpris de cela. À un moment donné, ce frère nous disait, vous savez quoi ? Pour nous, c'était la vie normale. Ce n'était pas exceptionnel. Si on avait passé un ou deux jours sans qu'il y ait de miracle, ça nous aurait surpris quand même. On serait dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était normal. Sauf que les années sont passées, et dans les années 80, 90 et 2000, ben ça a été beaucoup plus compliqué. Hein. Et c'est là où ce frère redisait, c'est fou, hein. On a vécu dans le réveil, mais on n'a peut-être pas apprécié à sa juste valeur tout ce que l'on vivait, parce que c'était normal. Il y en avait à profusion, c'était normal. On s'habitue au réveil, mais on s'habitue à ne pas achever le travail aussi. Ça a duré 15 ans. On s'habitue à être dans le réveil, et on s'habitue à être endormi, à être dans l'endormissement, à ne pas vivre dans le réveil en disant « Oh là, mais ça, ce sont des vieilles histoires, oh, mais ça remonte à loin, ah, si seulement encore !» Et finalement, on s'habitue. Ne serait-il pas bon, aujourd'hui, de nettoyer, de remettre en état les outils et de rafraîchir cette espérance ? Parce que le réveil, c'est ça, c'est un rafraîchissement. C'est l'histoire qui nous parle, on se souvient de ce qui s'est passé et on se dit qu'avec Dieu, l'histoire, c'est un présent perpétuel et il n'y a pas de raison que ça appartienne au passé et il n'y a pas de raison que ça ne revienne que dans 200 ans ou plus encore parce qu'on ne sera plus là. L'important, c'est que ça se vive aujourd'hui et ça peut encore se vivre aujourd'hui. Et puis, troisième aspect, le réveil, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. La nature se renouvelle. Quand arrive le printemps, c'est un renouvellement à nouveau. Un renouvellement, là encore, si vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire qu'on modernise quand on renouvelle. Vous n'avez jamais renouvelé vos batteries de cuisine ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, vous avez racheté, vous avez pris autre chose. Bref, on modernise, on transforme, on remplace, on change. Et quelquefois, on est tout excité à l'idée de le faire d'ailleurs. Ça crée un enthousiasme. Faut-il vous rappeler l'étymologie du mot enthousiaste ? C'est divin, hein ? Dans l'origine, c'est divin. Hein ? C'est une joie qui est surnaturelle. C'est un élan c'est un transport divin, l'enthousiasme. Alors oui, plaise à Dieu qu'il puisse se passer ces mêmes choses. Alors on va revenir un peu plus en détail sur, premièrement, le renouveau, un nouveau départ. Comme je l'ai dit, une renaissance, un retour, une résurrection, un printemps. Lisons ensemble à nouveau ce qu'il est dit dans ce chapitre premier. On va revenir sur ces quelques versets, mais je le relis volontairement. Verset 4, chapitre 1er, verset 4. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, verset 8, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Chapitre 2, verset 3, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Frères et sœurs, j'aimerais que l'on s'encourage les uns les autres. Parce qu'Israël avait sombré par sa faute. Hein. Ce n'était pas de la faute des autres si Israël avait été emmené en déportation et si le temple avait été rasé. Ce n'était pas de la faute des autres, c'était de leur propre faute. Ah, ils se lamentaient, ils pleuraient au bord des fleuves de Babylone. Oui, ils gémissaient. Si seulement ils pouvaient revenir en arrière. Mais avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Avec Dieu, on va de l'avant. On va de l'avant. On va de l'avant. C'est-à-dire qu'on peut retrouver certaines choses que Dieu a pour nous si simplement on se remet en marche. Alors, ce peuple finalement comprend que si le retour a été complètement miraculeux, comme je vous l'ai dit, alors on a fait des efforts et on a fait des progrès, on s'est mis à l'œuvre, on s'est mis au travail, mais ce n'était pas suffisant. Le temple est resté trop longtemps inachevé. Je reviens sur ce premier point, sur ces 15 ans d'interruption. Je ne peux pas imaginer que dans ma marche avec Dieu, dans ma vie chrétienne, je m'engage avec Dieu, c'est le réveil, je suis convaincu de péché, je réalise mes fautes, je réalise dans quelle voie je m'engage et ce que Dieu va faire avec moi et pour moi, et je pars à 100 à l'heure. Et je ne peux pas imaginer qu'au bout d'un certain temps, le travail, la construction de ce temple intérieur s'arrête et que pendant 15 ans, plus rien ne se passe. Un blanc dans ma vie chrétienne de 15 ans. Un blanc. Il ne se passe plus rien. Je ne suis plus, finalement, enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis mort à l'intérieur. Plus d'envie, plus de désir, plus de piété. Rien. Vous ne pouvez pas imaginer un truc pareil. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quelque chose comme ça, ce serait épouvantable. Notre vie qui s'arrête comme cela, la sève qui cesse de monter, plus de printemps, plus de réveil, plus de joie, plus d'enthousiasme, rien, c'est la mort intérieure. Ce serait horrible une chose pareille. C'est exactement ce qu'ils ont vécu. 15 ans. Où on leur a coupé les jambes, on leur a coupé l'envie, on leur a coupé le désir. 15 ans où ça s'est arrêté, on s'est découragé. Et pourtant, le temple n'était pas achevé. Frères et sœurs, la Bible nous rappelle que Jésus, finalement, est en train de bâtir son Église. Vous le savez, ça, hein ? Il l'a bâti avec nous, chacun d'entre nous, pierre vivante. Et la Bible dit même que cette église, cette épouse, elle sera belle, sans tache, irrépréhensible lorsque Jésus reviendra la chercher. Sommes en construction, il ne faut pas arrêter l'ouvrage. Sommes en construction, il faut que ça continue. Il faut tous les jours que le travail continue. Ça ne peut pas s'arrêter et pour dire je fais une pause et je reprendrai dans quelques temps. En général, quand on dit je fais une pause, on prend un grand risque parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va reprendre. C'est complètement illusoire, c'est complètement un piège que de se dire j'arrête pendant une semaine, un mois, j'ai besoin de souffler. Vous arrêtez un mois, ça peut durer 15 ans. Mais oui, parce que vous verrez, enfin vous verrez pas, je ne souhaite pas, mais en tous les cas, ceux qui l'ont fait pourraient en rendre ce triste témoignage qu'on est, on est brisé, on est cassé, et puis le diable va en rajouter, et constamment il en rajoutera. Et vous n'arriverez jamais à relever la tête, ce n'est pas possible. Il ne faut pas arrêter le travail. N'arrêtez pas le travail au-dedans de vous. Persévérez, continuez à pratiquer et à vivre votre foi avec beaucoup d'élan et avec beaucoup de joie. Finalement, après 15 ans, le travail a repris, mais sur une direction de Dieu.
Vous avez vu quand Agé vient les trouver, ça fait 15 ans que ça s'est arrêté. Quand Agé vient les trouver en disant « Combien de temps encore passerez-vous du temps à bâtir votre maison quand la maison de Dieu est en ruine ?» La priorité, c'était d'abord la maison de Dieu et après la vôtre. C'est ça qu'il leur dit. C'est ça qu'il leur dit. D'abord la maison de Dieu et ensuite la vôtre. D'ailleurs, leur quotidien, il n'était pas formidable, hein. Il n'était pas formidable. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Votre salaire tombe finalement dans un sac percé, il n'en reste rien. Et réfléchissez un instant. Considérez attentivement vos voies. Et c'est dit plusieurs fois d'ailleurs. Considérez attentivement vos voies. Ce que cela nous amène à comprendre, c'est que finalement, il y a une prise de conscience. Il nous est dit... je l'ai cité tout à l'heure, verset 12 du chapitre 1er, Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et la voix d'Agé le prophète. J'ai l'impression qu'ils ont parlé en même temps, Agé et Dieu, parce que je crois que Agé a dit la parole de Dieu. Mais en fait, ils ont entendu la voix de Dieu au travers du prophète Agé. Ils ont entendu les deux. Et ça, c'est réjouissant quand on commence à réentendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? C'est tellement agréable. Quand pour la première fois de sa vie, on entend la voix de Dieu, mais c'est tellement meilleur quand on la réentend à nouveau, ou plutôt quand on ne cesse de l'entendre jamais. Alors, c'était soit sa propre maison, soit celle de Dieu. Je parlerai de désintérêt. Vous savez que le désintérêt, à mon sens, c'est pas être contre forcément. Ce n'est pas être forcément opposé. Il y a des frères et sœurs qui se sont désintéressés de leur vie chrétienne, de l'Église, et ils n'étaient pas contre pour autant. Ils n'étaient pas opposés, désintéressés. Devrait-on dire négligent? Certainement. Ça rejoint plutôt cet aspect-là. Devrait-on dire insensible, indifférent? C'est plutôt ça. Mais ce ne sont pas de bonnes qualités, ce sont de cruels défauts que d'être insensible, que d'être indifférent. Alors, vous ne pensiez peut-être pas que l'on puisse être habité de sentiments comme ça. Eh bien oui, parce que quelquefois, la négligence et l'indifférence, ça ne se voit pas, forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que tous leurs efforts ne payaient pas. Et le temple, ça ressemblait à rien, quoi. C'était pas un beau temple qu'ils avaient construit, c'était pas agréable. Mais la promesse est là. La gloire du second temple, elle sera plus grande que celle qui a envahi le premier temple de Salomon. Elle sera plus grande encore. Et frères et sœurs, je crois que chaque printemps qui revient rappelle le précédent. Hein. Mais chaque printemps est unique. On n'aura jamais deux printemps pareils. L'arbre, il ne poussera jamais deux fois pile poil exactement pareil. Il ne produira pas les mêmes fruits, évidemment. Il n'aura pas la même grosseur, la même taille. Mais ça revient quand même, ça ressemble. Et tant mieux. Mais c'est toujours unique. Alors vous avez vécu un réveil, celle du premier temple. Certains l'avaient vécu. Eh bien Dieu est en train de leur dire, réjouissez-vous de ce que vous avez vécu. Mais sachez que le deuxième printemps qui arrive, ce sera encore autre chose. Cette gloire qui revient, ce sera encore autre chose. Alors ne dites pas, j'en ai vécu une, ça me suffit, j'ai vécu un réveil, je passe mon tour. Non, on en a besoin et on en a vraiment besoin. Alors on ne peut pas comparer, c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. Oh là là, si vous saviez avant les réunions, c'était quelque chose. Hein. Aujourd'hui, c'est tout plat. Hein. On ne peut pas comparer. Ce qui était, merci Seigneur, c'est plus honte à nous. Il faut que ça revienne, mais ça reviendra différemment. Mais ce sera glorieux quand même. C'est évidemment dans cette idée de rafraîchir, parce que le temple, vous le comprenez, quand on va le rebâtir, quand on va finir. D'ailleurs, il s'est achevé en 4 mois et demi. Donc là, on a bossé fort. Hein. 15 ans de pause, mais on a terminé en 4 mois et demi. On a compris que c'était le moment qu'il fallait le faire. Et ne tardez pas. À faire venir le printemps sur votre vie, ne tardez pas, il faut que ça vienne vite là. Et finalement, le temple est devenu le support du réveil. Le réveil, ce n'était pas le temple, ce n'était pas super, on a construit le temple, on est tous bien réveillés. Non, c'était le support. Le réveil, c'était sur les gens, qu'il se manifestait. Ce n'était pas dans la pierre, c'était sur les gens. C'est ce que Jésus reprochera à ses disciples qui lui montreront le temple à Jérusalem en disant « Regarde ces pierres, regarde comme c'est beau !» Et Jésus dira « Mais belle pierre, 46 ans pour le bâtir !» Eh bien, vous voulez que je vous dise, en quelques instants, il va être détruit ce temple et il sera rebâti en 3 jours. Comprenez pas qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection. Donc l'important pour Jésus, ce n'est pas les pierres, ce sont les pierres vivantes. C'est ça qui importe, ce sont les pierres vivantes. Alors rafraîchissement, allez, on va rafraîchir tout ça. Pourquoi ça ne vient pas? La diapo d'après. Rafraîchissement. Acte chapitre 3. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Acte chapitre 3. Et verset 19. Un vent de fraîcheur doit souffler sur nos vies. On va faire du nettoyage, on va remettre en état et on va se rappeler tout ce que Dieu avait fait et tout ce que nous, on a fait aussi. Repentez-vous. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas soif d'être rafraîchi. J'en ai vraiment envie, moi. J'ai envie d'être rafraîchi par cette onction qui vient d'en haut, par ce zèle que procure l'évangile de paix. Il est temps de mettre un coup de fraîcheur dans notre relation avec Dieu. Il est temps de mettre un coup de fraîcheur dans votre relation avec Dieu. Alors nettoyez ce qui doit être nettoyé, remettez en état ce qui doit l'être, rappelez-vous, remémorez-vous comment c'était. Quand on a fait du rangement en haut là, cette semaine, tout d'un coup, j'ai revu ce que je n'avais plus vu depuis des années. Oh, que c'était beau, hein ? C'était beau, hein ? Je me suis dit, waouh, c'était aussi beau il y a quelques années de ça. Mais avec le temps, on a entassé, on a mis, il y en avait de partout, etc. C'est toujours comme ça. Si on ne fait pas gaffe, on empile. Hein, on empile. Et on a de moins en moins de place pour bouger. De moins en moins d'espace. Alors, frères et sœurs, il faut faire du nettoyage dans votre cœur. Il faut faire du nettoyage dans votre relation avec Dieu. Quand je dis faux, voyez la nécessité, pas l'obligation, parce que vous êtes libre, mais la nécessité. C'est bien, il faut le faire, c'est une nécessité. Alors on peut évidemment se rappeler, évoquer le zèle qu'on a un petit peu moins, nos habitudes dans lesquelles on est bien installé, notre train-train. On a souvent pris le train, mais alors le train-train, on n'a pas besoin de le prendre. Vous avez remarqué, on est dedans tout le temps, tout le temps, notre train-train. Voilà. On a nos habitudes, mais quand ça ne marche pas, frères et sœurs, quand ce n'est pas terrible dans notre vie avec Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu quand même. Et si ce n'est pas terrible, frères et sœurs, ce n'est pas que de la faute des autres aussi. Des fois, c'est un peu de notre faute. Des fois, c'est aussi nous qui avons besoin de faire le point. Alors, ne soyons pas nostalgiques d'avant. Avant, qu'est-ce que j'étais bien avant, j'étais jeune, j'étais zélé, j'avais le feu. Oh là là, mais si vous savez tous les coups que j'ai pris, maintenant je suis un peu escagassé, je ne vais pas très bien. Non, 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 ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il faut regarder le passé, il faut voir le passé, parce que voir le passé, c'est aimer l'histoire. Mais il ne faut pas être nostalgique du passé, parce qu'avec Dieu, il y a des choses nouvelles qui sont là devant nous. Je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, disait le prophète. Mais c'est en regardant l'histoire qu'on trouvera de la ressource pour alimenter le présent et on verra notre avenir transformé. Ne soyez pas nostalgique, mais aimez l'histoire pour y puiser les ressources qui vont vous faire avancer. Alors on parlera de miracle, point d'interrogation. On parlera de guérison, point d'interrogation. On parlera de conversion, point d'interrogation. On parle de baptême de l'esprit, point d'interrogation. Où sont ces miracles? Eh bien, je regarde en arrière, je me dis, mais ils ont existé, j'en ai vu. Alors, il n'y a pas de raison que j'en vois pas. Il n'y a pas de raison qu'on n'en voit plus. Il n'y a pas de raison qu'il ne se passe plus rien. Ce n'est pas possible. Alors, regardons l'histoire. Voyons ce qu'elle nous enseigne et allons de l'avant, frères et sœurs. Et je termine sur ce qu'on a dit, le renouvellement. C'est un renouvellement. Et quand on parle de renouvellement, on parle de moderniser, de transformer, de remplacer, de changer. On va lire deux textes. Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2, et Éphésiens, chapitre 4, du verset 17 au verset 24. Épître de Paul aux Romains et Épître de Paul aux Éphésiens. Romains, chapitre 12, verset 2, et Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Vous avez trouvé Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Dans ces deux passages, frères et sœurs, on parle bien de transformation, non? On parle bien de changement. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Vivez un renouvellement même dans votre vie pratique, dans votre vie de tous les jours. On pourrait parler de modernisation ou de remplacement. Vous préférez quoi, avoir une intelligence renouvelée ou une intelligence obscurcie, comme dit l'apôtre Paul? C'est pas une question piège, hein, mais on sait tous ce qu'on répond, hein, pas de problème. Hein. Vous préférez être ami de Dieu ou encore étranger de Dieu? On veut tous être amis de Dieu. Mais c'est toujours une lutte entre notre nature charnelle et nos aspirations spirituelles. Paul dit « revêtez l'homme nouveau, mais après vous être dépouillés du vieil homme. » Nous, on aimerait bien revêtir l'homme nouveau et que le vieil homme disparaisse comme ça. Mais vous devez travailler à ça. Eh oui, c'est la vie chrétienne. Il nous faut travailler à cela. Je crois qu'on doit évoluer dans nos mentalités. Hein. Au risque de vous surprendre, je pense qu'on évolue dans nos certitudes aussi, ouais, dans notre marche avec Dieu. On évolue également et on gagne en maturité. En fait, ce que je pense, ce que je vis, ce sur quoi je raisonne aujourd'hui, ce qui me fait réagir aujourd'hui est différent dans ma vie chrétienne, hein, est différent de la manière dont j'aurais réagi il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. J'ai évolué. Et vous voulez que je vous dise, si vous n'avez jamais évolué, il y a un problème. Si aujourd'hui vous pensez exactement pareil qu'il y a 40 ans, au début vous vous êtes engagé avec Dieu, si vos certitudes n'ont pas évolué, si vous n'avez pas gagné en intelligence spirituelle, il y a forcément un problème. Parce qu'on évolue. On est obligé d'évoluer. D'ailleurs, souvent, les problèmes relationnels dans les églises, entre nouvelle génération, ancienne génération, c'est précisément des choses comme ça. Hein. Non, il ne faut rien toucher, on a toujours fait comme ça. Hein. Eh oui, ce sont des habitudes ou du train-train, ou parce qu'on n'a pas évolué. Dans l'Épître aux Hébreux, il est bien question d'évolution. Vous devriez être des maîtres dans la doctrine, dans l'art de pratiquer, d'où la formation de disciples. Allez-y, samedi, ça vous fera du bien. Donc, on a besoin de grandir et vous devriez être capable de manger de la nourriture solide et on est encore obligé de vous donner du lait comme à des enfants spirituels. Vous n'avez pas évolué, ce n'est pas normal. Frères et sœurs, nous devons évoluer. C'est une nécessité. Parce que si je n'évolue pas, c'est ma vie qui est en jeu. C'est la survie de ma vie chrétienne qui est en jeu. Et oui, j'ai besoin d'évoluer. C'est logique, c'est normal. Alors la conclusion, aspirez-vous à un réveil? Oui ou non? Que ceux qui disent oui lèvent la main. Désirez-vous le voir et le vivre?
Ah, moi, je lève la main, hein, sûr. Hein.
J'ai une dernière question. Croyez-vous que cela soit possible?
Amen.
Alors, pour que la vie revienne, il faut que l'histoire nous parle. Il faut que l'histoire du temple nous parle. Il faut que l'histoire de demain nous parle encore. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que l'histoire nous parle. Et il faut que cela allume un feu nouveau et un nouvel enthousiasme dans nos cœurs. On ne peut pas arrêter ce temps de méditation sans chercher la face de Dieu quelques instants. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va chanter quelque chose ensemble. Et je voudrais que l'on se consacre à nouveau à Dieu. Je voudrais, si vous le souhaitez, que vous fassiez la même démarche que moi et que l'on se consacre à nouveau à l'Éternel. Entendons la voix de l'Éternel qui nous dit « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Est-ce pour nous de nous appuyer sur notre histoire, notre passé, nos vestiges, ce que l'on a vécu, mais qui appartiennent à hier ? Et quand on voit la façon dont les choses vont aujourd'hui, ça va si doucement, ça va si lentement. On a envie de dire « Seigneur, mais embrase-nous, embrase-nous. Je te donne tout, on l'a chanté tout à l'heure. Vous avez donné à Dieu votre louange, vous lui avez donné votre adoration. » Vous lui avez donné ces instants du dimanche matin, mais ce n'est pas que cela que Dieu veut. Ça ne se limite pas à cela. C'est notre vie consacrée sur l'autel. C'est notre vie offerte en holocauste. C'est lui que nous voulons servir et adorer. C'est lui que nous voulons bénir et louer. Frères et sœurs, je puis vous dire, sans me tromper, parce que c'est une prophétie, que la gloire à venir est supérieure à la gloire passée. La gloire de ce second temple sera plus grande que n'a été celle du premier temple. Et je veux croire que ma vie avec Dieu, elle sera plus forte, plus grande, plus explosive comme le printemps demain qu'elle n'a été jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas stagner, je ne veux pas subir un coup de gel et m'endormir encore pour 15 ans, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un réveil, il faut qu'il se passe quelque chose. Et que Dieu vienne souffler sur nos vies, souffler dans ce lieu, souffler sur notre auditoire, souffler sur nos consciences, et nous réveiller à nouveau. Frères et sœurs, un renouveau, un rafraîchissement, un renouvellement. Que Dieu nous visite et que Dieu nous accorde sa grâce.